quel rapport y a-t-il entre séries cultes et cultes? Quel lien y a-t-il entre un box-office et un office tout court? A priori, aucun. Et vous êtes donc en droit de vous demander ce que je fais là.
Sérimania, le festival français qui s'est imposé sur la scène internationale, deux éditions reportées, Covid oblige, a enfin ouvert ses portes jeudi dernier. Elle se referme ce soir après la grande remise du prix qui aura lieu au Nouveau Siècle à Lille. Bilan et perspective avec la Big Boss de l'événement qui a eu la folle intuition il y a 11 ans maintenant que la série allait devenir une forme majeure en ce début de 21e siècle. Majeure et planétaire.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Vous avez peut-être reconnu la voix d'un rabbin. Mais Dieu, qu'un rabbin allait donc faire dans cette galère. Bonjour Laurent Herzberg.
Bonjour Sonia.
C'était Delphine Horweiler qui a été l'une de vos invitées surprises à Sérimania. C'est là que la série vous entraîne loin, mais alors vraiment très très loin. Vous allez nous raconter avec nous, si vous nous regardez en vidéo, vous avez vu que Redouane Tella s'est incrusté dans le studio. Salut Redouane.
Salut Sonia, salut tout le monde.
Le rédacteur en chef de l'Instant M, grand consommateur de série, qui vient quand même nous raconter pour la 200e fois, pour les gens qui le connaissent dans cette maison, sa série adorée, préférée, la meilleure série du monde. Vous avez un suspense de 5 minutes avant de savoir quelle est la meilleure série du monde pour Redouane. Laurence Herzberg, je l'ai dit, 26 août, 2 septembre, c'est la fin ce soir, vous devez être complètement crevé, vous avez pris le TGV ce matin pour venir nous voir. Globalement, ça s'est bien passé, passe sanitaire et report du festival, ça s'est quand même bien passé cette semaine.
Ça s'est extraordinairement bien passé. Ouais. Non, vraiment, c'était un gros succès sur le public, les médias, tous les professionnels. On l'avait placé sous l'angle de la des retrouvailles, oui, et de évidemment. La convivialité. Et vraiment, c'est ce qu'on a eu.
C'est ce qu'on a eu. Alors, j'ai dit un rabbin et un ancien Premier ministre, Édouard Philippe, à Sérimania.
Quand vous écrivez une série, vous êtes obligé de vous poser des questions que le romancier ne se pose jamais. En termes de décor, ça va vous sembler accessoire, si j'ose dire. Ça ne l'est pas. En termes de profondeur des personnages, parce qu'à chaque fois qu'ils seront habillés, à chaque fois qu'ils parleront d'une façon ou d'une autre, à chaque fois, ils renverront à l'image, à des choses qui sont infiniment plus profondes et plus diverses que ce à quoi vous pouvez les tenir par l'écrit.
On fait avec vous, Laurence Herzberg, une sorte de bilan chaque année du marché de la série qui a considérablement évolué depuis que vous êtes mon invité. Et je me souviens très bien, vous avez été la première à ce micro à dire, Sonia de Villers, on ne dit plus série télé. On ne dit plus série télé, vous aviez parfaitement raison, vous étiez la première à l'exprimer comme ça. Qu'est-ce qu'une série? C'était la première question avec Redouane qu'on avait envie de vous poser. Qu'est-ce qu'une série? On se demande, on a l'impression que tout est devenu sériel. Qu'est-ce qu'une série pour Sérimania?
Alors, je vais faire le rabbin, je vais vous retourner la question, parce qu'un rabbin pose toujours des questions, et vous avez raison, on a eu Delphine Horweiler qui a parlé de la Bible, est-elle le meilleur des scénarios? Mais en fait,
idée géniale quand même, cette conférence, allez-y.
Je vais juste revenir sur pourquoi en fait un rabbin déjà, si vous voulez, et un ancien Premier ministre, et une essayiste comme Tania de Montaigne. J'ai voulu, en invitant ces trois personnes, prendre un tout petit peu de recul. La plupart de mes invités sont surtout des gens qui font les séries. Et là, j'ai voulu des gens qui donnaient un autre regard. Un regard des spécialistes dans leur domaine. Delphine Horweiler est spécialiste de la religion, de la Bible. Édouard Philippe de la politique. Tania de Montaigne a beaucoup écrit sur ce qu'on appelle la diversité. Et je leur ai demandé à tous les trois, mais qu'est-ce que c'est, en fait, votre regard, de votre point de vue sur les séries? Donc, je reviens à votre question. Qu'est-ce qu'une série? D'abord, c'est une œuvre. Très clairement, c'est une œuvre artistique qui va plonger, souvent, si j'avais un tout petit peu résumé pour des auditeurs qui cherchent un peu une définition, c'est on va plonger des personnages, pas mal de personnages, un nombre assez important de personnages qui vont avoir des problèmes intérieurs, qu'on va observer de manière assez intime, ce qui va expliquer pourquoi on va avoir, nous, le public, un rapport intime, soit d'identification, soit d'intérêt, soit de rejet, mais en fait, un vrai sentiment pour eux. Un lien dans une arène plus large, qui est souvent l'observation d'un milieu. Donc on a ces deux couches de narration qui font le succès de la série. Je parle pas après, en matière d'écriture, tout ce qu'on appelle enfin les rebonds dramatiques ou cliffhanger, etc., etc. Je dis simplement, d'une manière générale, on suit de très près, des personnages dans un environnement plus large.
Forme née à la télévision, décorrélée depuis de la télévision, avec l'arrivée des plateformes notamment, qui a considérablement fait muter le travail sur cette forme artistique. On ne dit plus série télé, mais série. Vous vous lancez à Sérimania aussi dans la série audio, avec une série produite par RFI, une série sur Camélia Jordana. On se demandait si l'un des critères pour vous, c'était forcément une écriture sérielle, c'est-à-dire des épisodes, et la fiction.
Oui, c'est absolument la fiction.
Et pourquoi la fiction ?
D'abord parce qu'en fait, d'abord c'est mon domaine, la fiction. Je viens du cinéma, j'ai créé ce festival il y a quand même une dizaine d'années, et je trouve que la fiction raconte le réel d'une manière absolument exceptionnelle. En fait, elle amplifie le réel.
Vous êtes bien d'accord que le documentaire, aujourd'hui, a pris une forme sérielle,
absolument,
de manière totalement spectaculaire, que ça fait des succès incroyables. Making a Murderer, par exemple, la série sur Michael Jordan, Tiger King au Royaume des Fauves en français. Tout ça, ces gens se sont rués sur ces séries, qui sont des séries du réel, qui sont des séries documentaires, et qui ont pris des allures quasiment de fiction, parce que souvent le réel dépasse la fiction.
Alors c'est vrai, bon, je vais pas me lancer dans le documentaire,
non,
je vous rassure quand même Sonia, parce que là faut quand même pas non plus exagérer. C'est la fiction déjà, en plus on va peut-être en parler, elle est exponentielle. Je m'intéresse quand même à ce phénomène de la série audio, parce que là vraiment il y a là aussi une nouvelle forme de création extrêmement intéressante. Je vais rester quand même modeste dans la création audio, et puis il y a beaucoup de festivals du documentaire, je vais pas non plus prendre toute la place, faut pas exagérer.
Allez.
Ça a été ici, enfin tout va bien.
Un Hamlet Shakespeare version turque.
Abi bak şimdi millet gergin. Yapma.
Ne yapayım lan? Lan ne yapayım? Ne istiyorsun?
On a toujours aimé, avec vous Laurence Herzberg, faire un point géopolitique sur la série. Je pense que vous êtes à un poste d'observation assez extraordinaire. Vous voyez les pays qui montent, vous voyez les pays qui descendent, vous voyez les langues qui s'imposent, vous voyez les langues qui émergent, vous voyez des inspirations qui arrivent. Alors, en ce moment, vous diriez quoi, justement ?
Alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé quand même 453 séries.
Ouais.
Pardon, 453 séries qui venaient d'une soixantaine de pays différents. Ce qu'on a déjà observé cette année, on nous a moins présenté de séries américaines et anglo-saxonnes. Pourquoi ? Pour des raisons liées au Covid.
Ouais.
Ils ont arrêté des tournages de manière beaucoup plus importante que dans d'autres pays européens. Et du coup, dès qu'ils ont repris, ils ont été obligés de les diffuser très très vite. Du coup, on est allé encore plus loin dans l'exploration du monde.
On va peut-être rappeler que les séries que vous présentez sont des séries inédites.
Absolument.
Voilà.
Elles sont absolument... La compétition internationale, ce sont des premières mondiales. On avait environ 28 premières mondiales dans les 50 séries que l'on montrait. Et autrement, de toute façon, ce sont toujours au moins des premières européennes ou françaises.
Et là, on a vu des Turcs, on a vu des Croates, des pays qu'on n'attendait pas forcément.
On a même reçu, alors on les a pas forcément sélectionnés, mais on a même reçu des séries de Syrie ou de Jordanie. On peut se demander comment ces pays, quand même, en guerre en plus,
secoués, arrivent.
Mais ça veut dire qu'en fait, il y a des artistes un peu partout. Et vous venez de passer une série extrêmement importante, c'est Hamlet. Comment un cinéaste, parce que il est cinéaste, je vais pas me risquer à prononcer son nom, pardon pour lui, mais il est cinéaste, il a fait d'autres œuvres, et il s'est intéressé à une revisitation d'Hamlet, placée dans un petit village turc, où la revanche d'Hamlet n'est pas faite par un personnage masculin, mais par un personnage féminin. Et il y a une scène absolument extraordinaire au début, qui est un peu la scène introductive d'Hamlet, où il y a les esprits, etc., qui est, pas la spoiler, mais enfin, ou la divulgâcher, mais je vais simplement dire qu'elle est fantastiquement visuelle, avec un massacre, bien évidemment virtuel, de chevaux dans une grande plaine. Donc on voit bien que des pays comme la Turquie, qui est aussi un pays de tradition de cinéma, se lance dans la série.
Ouais. Cannes, Mujdefi, Ben, je pense que moi aussi j'écorce son nom. On a l'impression que la série africaine se fait rare à Sérimania, alors que c'est un continent qui est un grand continent de production. Laurence Herberg.
Absolument, on cherche.
On cherche.
On cherche beaucoup. On sait très bien tous.
Question de qualité, question de quoi?
C'est pas tellement une question de qualité, c'est une question, en fait, d'adéquation à un festival et à ce que nous pouvons montrer. Le Nigeria est un très gros producteur de séries, les pays francophones s'y mettent. C'est pas tout à fait la narration à laquelle on est habitué. C'est un style aussi d'acteur qui peut nous dérouter, qui convient très très bien au pays où ils le font. C'est-à-dire, on outre le jeu, mais qui nous, chez nous, dérange un tout petit peu. Et ce qu'on fait aussi là, c'est qu'en revanche, on a créé un programme avec le CNC d'accueil de scénaristes de la région ACP, africains, pour justement qu'ils puissent voir et s'immerger au festival, rencontrer d'autres scénaristes, pour comprendre un peu mieux les rouages de l'écriture à l'européenne. Un peu. Mm-hmm.
Jeanne et Gaulerie, ça c'est une série française.
À table.
On a dit à table.
Vous avez fait pour je sais pas combien, hein.
Pardon Francis, mais elle n'est pas trop bavarde.
Vous savez, moi je suis quelqu'un de plutôt taiseux, donc finalement ça compense. Hein.
Tes œufs à la coque.
Tes œufs au plat.
Tes œufs brouillés.
Donc on va vraiment tous les faire.
Tes œufs mimosa.
Tes œufs bénédicte.
Il est impayable.
J'en ai un.
Tes œufs de Pâques.
Excellent. Moi je trouve que c'est le meilleur.
Il est bon.
Oui, si vous voulez. Alors, à ma droite, j'ai Redouane Tella qui me dit, il faut rappeler que gaulerie, ça veut dire rigole. Oui, c'est vrai.
Bah oui, on comprend mieux, c'est jeune et rigolo.
Jeune et rigolo. Et Laurence Herzberg qui dit, est-ce qu'on va reparler d'Edouard Philippe? Mais oui, on va reparler d'Edouard Philippe. On va dire un mot sur la comédie. La comédie était très présente cette année à Sérimania, avec l'influence du stand-up. Par exemple, vous avez réfléchi à l'influence du stand-up sur l'histoire de la série. Avec Redouane, justement, on s'est posé la question suivante. On s'est dit que sur le toit du monde des séries, on retrouvait toujours les mêmes noms, les Sopranos, The Wire, Mad Men, Six Feet Under, Twin Peaks. Ce ne sont pas des comédies. Et on a l'impression que la comédie, ne suscite jamais l'unanimité, mais vraiment jamais. Alors que d'autres formes, plus tragiques, plus dramatiques, mettent tout le monde d'accord. Le rire, c'est très difficile de mettre tout le monde d'accord, Laurence Herzberg. Il y en a toujours qui vous diront que Seinfeld, ils n'ont jamais compris pourquoi, que The Office non plus, que Friends, c'est nunuche. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Eh ben, je suis un peu... Alors, d'abord, il y a quand même des séries drôles qui ont quand même... The Amazing Mrs. Maisel, quand même, sur Amazon, elle a quand même beaucoup voyagé. Fleabag, Phoebe Waller-Bridge aussi. Mais c'est vrai que le rire voyage mal, d'une certaine manière. Que ce qui fait rire nos voisins allemands, nous, on va trouver ça grotesque. Hein. Il y a quelques... Comme ça, il y a du rire anglais qui passe. L'humour britannique passe très bien, l'humour de Woody Allen, bien évidemment, à l'époque, passait très bien, mais c'est quelque chose qui passe mal. Et puis, pas très bien. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que la série, je reviens là-dessus, en fait, les gens s'intéressent à la série parce qu'ils vont découvrir des univers totalement différents. On va pouvoir parler de Unorthodox, on va pouvoir parler de la série, forcément, Hamlet. On parlera de Germinal, quand ils vont là, qu'on a montré.
Unorthodox, ça se passe dans les milieux juifs.
Unorthodox, ça se passe dans les milieux juifs orthodoxes de Brooklyn. Donc là, on va rentrer dans un univers que personne ne connaît. Tout le monde a rêvé de savoir qu'est-ce qui se passait sur des juifs.
Vous l'avez toujours dit d'ailleurs, hein, plus c'est local, plus ça s'exporte.
Plus c'est local, plus vous rentrez dans un milieu fermé que les gens ne connaissent pas, mieux c'est. On pourrait faire quand même une série sur la maison de la radio.
On pourrait.
On ne sait pas comment ça marche.
Non.
Et je suis sûr que...
Il y a plein de choses à raconter.
Il y a plein de choses à raconter.
Il y a des sacrés personnages ici.
Alors la comédie quand même sur le stand-up, c'était une idée de...
Personne ne nous croirait d'ailleurs.
C'était une idée de Frédéric Lavigne, le directeur artistique, parce que le stand-up c'est quand même un mouvement important, et ils se sont tout de suite mis en série. Seinfeld et d'autres, etc. Donc on s'est dit, mais que vont faire, comment réagissent les jeunes stand-uppers français aux séries cultes? Quelles sont les séries cultes de stand-up qu'ils ont aimées? Donc on les a invités, ça a été un bon moment, effectivement, de rigoler.
Nora Manzi, Ramzi Bedia, etc. Redouane veut absolument vous parler de Larry et son nombril, qu'il place lui sur le toit du monde. J'ai posé la question ce matin à Nicolas Demorand, qui est un immense sériephile. Il m'a répondu la même chose, donc ça fait déjà un début d'unanimité. Pourquoi, Redouane? Déjà, on peut donner le titre en anglais, Curb Your Enthusiasm.
Oui, Curb Your Enthusiasm. Et puis,
ça veut dire cache ta joie.
C'est cache ta joie, c'est ça. Et on va surtout parler de ce Larry, de Larry et son nombril, qui est Larry David, qui a écrit Seinfeld, dont on a parlé juste avant, qui est un immense phénomène américain dans les années 90. Dans les années 90, il y avait Michael Jordan et Seinfeld. Pour les Américains, c'était deux monuments. Et dans Larry et son nombril, Larry David raconte sa vie après Seinfeld. Lui, le stand-upper, on va dire raté, qui est devenu richissime et qui se retrouve avec une immense villa à Los Angeles et qui se fait chier tout au long de l'année.
Laurence Herzberg, vous en avez diffusé deux épisodes là.
À on a diffusé deux épisodes, c'était le choix de Nora Hamzaoui.
Ah, formidable. Voilà. Vous êtes déjà trois
à être. Aussi, cette série est formidable.
C'est pas du tout une nouvelle série, il y a déjà beaucoup de.
C'est une nouvelle série, cette série a 20 ans, la 11e saison arrive en octobre. Ouais. Et ce qui me plaît, moi, dans Larry et son nombril, c'est que Larry David reprend tous les codes du stand-up. New-Yorkais notamment, donc c'est un misanthrope un peu fou qui regarde la société avec le prisme de ses travers, etc. Mmh. Et qui passe son temps à la critiquer et à détester le genre humain. Mais il ajoute aussi du burlesque, du comique de situation, etc. Et ça fait la comédie ultime pour moi.
C'est ça, la comédie ultime, la meilleure série du monde, Laurence Herzberg. Vous avez aussi consacré un chapitre aux femmes derrière la caméra, aux histoires de femmes. C'est une spécificité française, 3%, ai-je lu, 3% de femmes réalisatrices aux États-Unis, 5% dans les pays occidentaux. En France, 25%. C'est une vraie spécificité française, la femme derrière la caméra. C'est pas la chose la mieux partagée du monde.
C'est pas la chose la mieux partagée, mais il y a un mouvement quand même pour mettre à la fois des femmes derrière la caméra et représenter surtout des femmes qui s'assument, qui prennent le pouvoir et qui deviennent de plus en plus maîtres de leur destin. Je crois qu'il y a quand même, France Télévisions joue un rôle assez important. Delphine Ernotte a très clairement dit, la présidente de France Télévisions, qu'elle voulait maintenant des œuvres avec parité, avec beaucoup de femmes derrière la caméra. C'est un combat de toute façon un peu chez tout le monde, mais moi je me l'impose aussi à moi-même dans ma sélection, pas forcément dans ma sélection finale des œuvres en compétition, mais dans tous les projets que je présente avec l'équipe, on choisit absolument des projets paritaires, c'est-à-dire qu'on veut que le nombre de projets présentés y ait autant d'hommes que de femmes. Mmh. Et c'est pas toujours facile.
Non.
C'est pas toujours facile
non.
du tout.
Comme vous dites, vous l'imposez.
Oui, je me l'impose.
Vous attendiez qu'Edouard Philippe vous révèle à Cérimania si oui ou non il allait se présenter à la présidentielle. Ça aurait été tellement chic de le faire au milieu d'un festival de fiction.
Franck Nouchi a bien tenté quand même. Franck Nouchi du Monde, il a
notre
bien
confrère
tenté.
Du Monde, oui.
Bon, c'était un grand moment quand même. C'était un grand moment. Tout le monde est tombé sous le charme, moi y compris, bien sûr. Mais il est resté très très intéressant sur la série. Et surtout, ce qu'il a dit, c'est que à la Maison Blanche, l'a inspiré. Il dit à la Maison Blanche, par exemple,
dans sa carrière politique,
dans le choix d'un directeur de cabinet.
Il faut vous rappeler que c'est une immense série politique à la Maison Blanche. C'est presque même une matrice pour.
C'est
toutes
la matrice des séries politiques, en fait. C'est la matrice des séries politiques sur 7 saisons qui raconte la vie à la Maison Blanche avec et on suit le président et on suit bien évidemment toutes les crises politiques. On va aussi voir son concurrent républicain. Et ce qui est très intéressant, c'est que Édouard Philippe dit s'en être inspiré. Par exemple, il a retenu cette formule qui vient à la Maison Blanche. Quand vous choisissez votre directeur de cabinet, choisissez-le plus intelligent que vous.
Merci beaucoup, Laurence Herzberg, qui est donc la directrice du festival Cérimania, remise des prix ce soir. Évidemment, on ne peut rien vous révéler du palmarès. D'ailleurs, elle a refusé de nous le donner. La soirée est présentée par Alex Vizorek et c'est à Lille au Nouveau Siècle. À l'année prochaine, Laurence Herzberg, au mois de mars, le festival va retrouver ses pénates, on espère.
On va de toute façon quitter le mois d'août.
On va quitter le mois d'août.